Vous écoutez, on lit pour vous.
La résistance de l'économie américaine surprend, mais n'est pas éternelle. Un texte de Myriam Lemétayer de l'agence France-Presse paru le 13 mai 2026 dans Le Devoir. Droits de douane, flambée des prix de l'énergie. Même pas peur, semble rétorquer l'économie américaine. Ces chocs successifs la fragilisent pourtant chaque fois un peu plus, soulignent des économistes. Une situation que le président Donald Trump adore s'est répétée à plusieurs reprises depuis son retour au pouvoir. Des prévisions économiques sont démenties, il les taxe de catastrophistes et déduit que ses politiques fonctionnent. Il balaie, à l'inverse, d'un revers de main, les mauvaises nouvelles. Exemple, l'inflation est apparue au plus haut depuis quasiment 3 ans. La guerre qu'il a déclenchée contre l'Iran commençant à faire grimper les prix en cascade, mais le chef de l'État a assuré que c'était de court terme et préféré insister sur la santé insolente de Wall Street. Le hic, c'est que la bourse n'est pas l'économie, remarque l'économiste en chef de Moody's, Mark Sandy, interrogé par l'AFP. Selon lui, le boom boursier en cours ne dit rien des fondamentaux de la première économie mondiale, mais semble évoluer de manière autonome face aux immenses espoirs placés dans l'intelligence artificielle, IA. Il note que ce même essor de l'IA contribue à voir les États-Unis en rose. Il génère d'importantes dépenses d'investissement, fait grimper la valeur des actions et donc crée beaucoup de richesses parmi les plus aisés, stimulant leur consommation. Sur le papier, d'ailleurs, les chiffres ne sont pas alarmants. 2 % de croissance en rythme annualisé au premier trimestre, 4,3 % de chômage. Mais Mark Sandy met en garde. Après avoir encaissé de nombreux chocs sans tomber en crise, l'économie se trouve désormais dans une situation très précaire. Quasiment aucun emploi n'a été créé depuis l'annonce des droits de douane massifs de Donald Trump il y a un an. Il suffit qu'il y ait un peu moins de demandes pour que les entreprises commencent à licencier, pense l'expert, qui décrit la poussée inflationniste comme un véritable test pour l'économie. Si la guerre au Moyen-Orient prend fin rapidement, poursuit-il, on devrait réussir à s'en sortir. Mais si ça continue 2-3 mois, j'ai peur que ce soit insurmontable. Une position à l'opposé de l'optimisme du conseiller économique de Donald Trump, Kevin Hassett. Il a déclaré pendant le week-end sur Fox News que les prix de l'essence baisseraient avant les élections législatives de mi-mandat en novembre 2026 et que la croissance pourrait être supérieure à 4 %, 5 %, même à 6 % à la fin de l'année. Vulnérable. On n'est encore qu'au début des hausses de prix liées à la crise énergétique. On ne sait pas encore comment les Américains vont réagir, dit à l'AFP Claudia Sam, économiste pour le cabinet d'investissement New Century Advisor. C'est vrai qu'il y a de la résilience, mais elle n'est pas éternelle, ajoute-t-elle. Elle considère néanmoins que l'inflation ne fera pas à elle seule dérailler l'économie, même si, sur le plan politique, Donald Trump le paiera cher si les prix de l'essence ne baissent pas d'ici novembre 2026. Le pays a l'avantage d'être le premier producteur mondial de pétrole, ce qui atténue quelque peu l'impact du blocage du détroit d'Ormuz, note Mme Sam. L'économiste s'est aussi rendu compte qu'il en fallait beaucoup pour déstabiliser l'économie américaine, sortie plein gaz de la pandémie de COVID-19. Tous les surcoûts qu'on a vu récemment, les droits de douane, les prix de l'essence, ne suffisent pas à faire dérailler une économie qui pèse plus de 30 000 milliards de dollars. Elle estime aussi qu'une grande partie du pays ne prête pas attention à ce qui se passe à Washington. Claudia Sham n'exclut pas totalement un effondrement de l'économie américaine, mais suppose que ce scénario impliquerait une crise de confiance plus générale à l'égard de l'IA en particulier. Malgré tout, à force de choc, nous avons aujourd'hui moins de soupapes qu'il y a quelques années. On est plus vulnérable. C'était « La résistance de l'économie américaine surprend, mais n'est pas éternelle », un texte de Myriam Lemétayer de l'agence France Presse paru le 13 mai 2026 dans Le Devoir.
Inventé pour piéger les plagiaires. Un texte d'Isabelle Haché paru le 3 mai 2026 dans la presse. Esquivalience, évitement délibéré de ses responsabilités officielles. Le fait de se dérober à ses devoirs. C'est, du moins, la définition du New Oxford American Dictionary. Une définition plus juste serait plutôt celle-ci. Mot qui n'existe pas. Piège à plagiaire. En effet, le New Oxford American Dictionary a glissé ce mot inventé de toutes pièces dans les pages de sa première édition en 2001 afin de protéger ses droits d'auteur. Il est plus facile de prouver qu'un concurrent vous plagie s'il répète vos erreurs, délibérées ou non. Esquivalience est d'ailleurs retrouvé dans au moins un dictionnaire en ligne. En France, dans les années 1990, les éditions Larousse et Le Robert ont poursuivi les rédacteurs du Maxi Dico, un nouveau dictionnaire offert à une fraction du prix de ses concurrents. Pour démontrer la contrefaçon, les deux maisons d'édition ont mis de l'avant les similitudes troublantes dans les définitions, souvent reproduites mot à mot. Mais l'élément décisif, au procès, a été la découverte d'erreurs reproduites telles quelles dans le Maxi Dico. On s'est aperçu que, lorsqu'il y avait une coquille dans le Robert, il y avait la même dans le Maxi Dico. Ils se sont fait prendre la main dans le sac, raconte le linguiste français Jean Pruvot, spécialiste des dictionnaires. C'est ainsi que les rédacteurs du Maxi Dico ont été reconnus coupables de parasitisme intellectuel. Au Québec, le dictionnaire Usito de l'Université de Sherbrooke a ajouté le mot « emportiérage » à sa nomenclature en mai 2015, accompagné d'une définition « incident qui survient lorsqu'un cycliste heurte une portière ouverte inopinément par un automobiliste dont le véhicule est à l'arrêt ». Cette définition était maladroite à plusieurs égards. D'abord, le terme « incident » était trop léger pour une infraction au code de la sécurité routière qui peut avoir des conséquences graves. Ensuite, la structure de la phrase laissait croire que le cycliste était en faute et non l'automobiliste. Le mot « emportiérage » a été ajouté à la version 9 d'Antidote, lancée en novembre 2015. Sa définition comportait les mêmes maladresses que celle d'Usito. Incident survenant lorsqu'un cycliste heurte une portière subitement ouverte sur sa trajectoire par l'occupant d'un véhicule automobile à l'arrêt. La linguiste et lexicographe Nadine Vincent, collaboratrice principale à la rédaction et à la révision du dictionnaire Usito, se souvient d'avoir été frappée par ces similitudes. J'avais regardé ce qu'avait fait Antidote et j'avais été très étonné de voir qu'ils avaient notre définition fautive, se rappelle-t-elle. Usito a corrigé sa définition d'emportiérage en octobre 2017 qui se lit dorénavant ainsi. Accident qui survient lorsqu'un automobiliste à l'arrêt, ouvrant inopinément une portière, cause une collision avec un cycliste en mouvement. La définition d'antidote, par contre, est restée la même. C'était un mot inventé pour piéger les plagiaires, un texte d'Isabelle Haché paru le 3 mai 2026 dans La Presse.
Un ex-itinérant et coureur s'est éteint la veille d'un demi-marathon. Un texte d'Éric Martel, paru le 1er mai 2026 dans La Presse. Le fil d'arrivée, Jonathan Léger Dubuc l'aura franchi beaucoup trop tôt. L'ex-itinérant qui avait ému le Québec après avoir terminé le marathon de Montréal, est mort d'un arrêt cardiaque à 39 ans. On l'a retrouvé inanimé dans sa chambre de la mission Old Brewery, une ressource pour personnes en situation d'itinérance. Il a rendu l'âme le 18 avril 2026, vêtu de sa tenue de course. Il se préparait pour le demi-marathon de Montréal qui avait lieu le lendemain. « Je vais gagner la course pour papa », a-t-il écrit à son frère Éric avant de mourir. Quand il a terminé son premier marathon, la première chose que je lui ai dite, c'est que notre père serait fier de lui, se souvient Éric Dubuc. On avait éclaté en larmes. La vie des deux frères a basculé lorsque leur père, André, s'est éteint en 2007. Sur son lit de mort, le père avait fait promettre à l'aîné, Éric, de prendre soin de son petit frère Jonathan. Jonathan a toujours été fragile. Nouveau-né et prématuré, il a passé ses premiers jours dans un incubateur. Une mort certaine l'attendait. Il s'est battu toute sa vie, résume Éric Dubuc. On ne lui a jamais diagnostiqué de troubles de santé mentale, mais c'était très difficile pour lui à l'école. Il doublait tout le temps. Il n'avait pas d'amis. Il n'accomplissait rien. Il ne recevait jamais d'encouragement. La vie de Jonathan Léger Dubuc a complètement déraillé il y a 2 ans. Dépressif, rongé par les dettes et la consommation de drogue, il se retrouve à la rue. Il y vit 2 mois avant de trouver un logement social subventionné à la mission Old Brewery. Il se bat pour demeurer dans le droit chemin. Au début de l'été dernier, Jonathan perd son emploi déboueur. Il souffre mentalement. Son vélo se brise un jour qu'il rend visite à son frère. Cela le met en rage. On était chez moi, à Montréal-Nord. Je lui ai proposé de marcher ou de prendre un bus pour rentrer chez lui. Il m'a répondu « Pourquoi je marcherais quand je peux courir? » C'était ça, Joe. Il ne faisait jamais les choses à moitié, raconte son frère, Éric. Virage complet. Ce jour-là, Jonathan est tombé amoureux. À moins de 2 mois de préavis, il décide qu'il courra le marathon de Montréal. Et contre toute attente, en s'entraînant avec les moyens du bord, il atteint son objectif. Après 4 heures de course, endolori, il termine le marathon de Montréal. Dans la vie, je me dis que c'est impossible d'améliorer sa situation sans douleur. Il fallait que je pousse, même si j'étais épuisée. Ça aura valu la peine. J'ai ressenti la plus grande fierté de ma vie. se félicitait Jonathan après sa course en septembre dernier. Ça a été le plus beau moment de sa vie. Il n'avait jamais été aussi heureux. Se rappelle Alexandre Maillé-Beaulieu, l'intervenant de l'accueil Bonneau, qui l'avait accompagné à la course. La presse et d'autres médias rapportent son exploit. Petit à petit, Jonathan, léger du buc, en comprend l'ampleur. Ça l'a viré de bord sur un dixaine. Ce n'était pas croyable. Il n'était plus la même personne, souligne Éric Dubuc. Touché par l'histoire de Jonathan, des lecteurs lui envoient des chaussures, une montre intelligente, un abonnement au gym, des cartes cadeaux pour de la nourriture, des dossards pour participer à d'autres courses. Au-delà des cadeaux, il recevait des tonnes de messages d'encouragement. Des personnes inspirées se mettaient à la course. Des enseignants d'école primaire avaient même lu les articles à son sujet à leurs élèves. Les jeunes prenaient la peine de lui écrire. Il accueillait tout ça les yeux pleins d'eau, le cœur ouvert. Ça lui donnait des ailes, relate Alexandre Maillé-Beaulieu. Jonathan Léger-Dubuc habitait juste devant les locaux de la presse dans l'immeuble de la mission Old Brewery. Nous l'avions croisé 3 fois après avoir écrit un article à son sujet. Il changeait de trottoir pour nous saluer. Son regard n'était plus le même. Celui qui avait besoin de marcher en parlant pour canaliser son anxiété sociale se tenait droit comme un chêne. Il nous regardait dans les yeux. Il transpirait la fierté. À chaque rencontre impromptue, il répétait que les articles à son sujet avaient changé sa vie, qu'il lisait celui de la presse chaque jour pour se motiver. Jonathan aimait regarder par la fenêtre de sa chambre. Il voyait les bureaux de la presse où son père a travaillé comme typographe pendant des années. La vue le rassurait, l'enveloppait. C'est comme si mon père était avec moi. Je pense que je vais avoir de la misère à partir d'ici, confiait Jonathan en septembre dernier en entrevue avec la presse. Les mois ont passé. Jonathan a cheminé. Il était finalement mûr pour un nouveau départ. Il était près d'un déménagement dans un appartement qui lui offrirait une plus grande indépendance. Il cherchait un emploi. Sa progression était fulgurante. Il remontait la pente. Il avait trouvé sa fierté, son espoir, son amour propre. Il était en train de changer de vie. C'est déchirant de le voir partir, murmure l'intervenant Alexandre Maillé-Beaulieu. J'ai eu peur pour lui pendant des années, de le retrouver mort sous un pont ou dans la rue. Mais là, je n'avais plus peur. Il s'en était sorti. Je ne peux pas croire que sa vie s'est envolée, juste comme ça. Laisse tomber Éric Dubuc. Reprendre le flambeau. Jonathan voyait grand. Il voulait terminer parmi les 100 premiers au prochain marathon de Montréal. Son frère et lui avaient prévu un voyage à Philadelphie. Jonathan allait courir les 50 kilomètres du parcours mythique de Rocky Balboa, le héros des films qui ont bercé l'enfance des deux frères. Joe m'avait dit que pour lui, il n'y avait rien là, qu'il allait le faire 2 fois de suite, lance Éric en riant. C'était lui tout craché. Jonathan ne courait plus pour se défouler. Il se dépassait pour inspirer les gens. Il en avait fait sa nouvelle mission de vie, rapporte son frère Éric. Depuis quelques semaines, il caressait un rêve. Il souhaitait amasser des fonds pour les organismes qui l'ont aidé à se remettre sur pied, à courir. À sa mémoire, Éric Dubuc a lancé une campagne de sociofinancement. L'argent récolté ira directement à ces organismes. Jonathan, je vais prendre la relève, lance Eric à son frère. Tu es peut-être tombé pendant ton marathon, mais je vais te soulever. Je vais la finir, ta course, dit-il en étouffant un sanglot. C'était un ex-itinérant et coureur s'est éteint la veille d'un demi-marathon. Un texte d'Éric Martel paru le 1er mai 2026 dans La Presse.
La fascination du luxe. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 9 avril 2026 dans La Presse. Pourquoi sommes-nous fascinés par le luxe? Est-ce la volonté d'afficher son statut social et d'appartenir à une élite? Entrevue avec Vincent Chabot, auteur de « Sociologie du luxe ». Quelle est la définition du luxe aujourd'hui? Il y a l'étymologie, du latin « luxuria », qui renvoie à la surabondance et à l'excès. Le luxe est insaisissable. Aujourd'hui, le luxe est une croyance qui attribue aux biens de luxe la capacité à vous faire appartenir à une élite sociale. Les sociologues ont défini le luxe par sa finalité sociale. Dire que le luxe, c'est la qualité, la tradition et la rareté, aujourd'hui, ça ne tient pas. Le luxe a intégré la société de consommation pour le meilleur et pour le pire, car il est soumis aux contrefaçons. Il y a le plaisir de profiter de biens et de services haut de gamme, ce qui peut être accompagné d'une quête d'ascension sociale et de respectabilité. Pourquoi le luxe fascine-t-il autant? Ça nous dépayse socialement. Ce dépaysement social peut faire du bien et procurer de la satisfaction par rapport à un univers plus morose. La consommation du luxe peut aussi venir comme une revanche pour réparer les frustrations du passé. Ça permet de se projeter dans un monde désirable, de mettre entre parenthèses les problèmes du quotidien. La consommation, c'est une forme de participation à la société, et cette consommation du luxe va vous faire appartenir ou vous donner l'illusion d'appartenir à une élite. Le luxe s'est-il démocratisé? Le luxe a changé. En 30 ans, la valeur du marché du luxe mondial a été multipliée par 5. Beaucoup de marques ont élargi leur gamme et ont créé de nouveaux produits pour attirer de nouvelles clientèles. La haute couture est faite pour rêver et pour entretenir la désirabilité des marques. Le défilé Chanel va vous faire acheter un rouge à lèvres Chanel à un prix accessible. Il faut savoir que 50% des ventes sont réalisées par des individus qui ne dépensent pas plus de 3 000 euros, 4 800 $ par an. Dans le luxe. On voit à quel point il a pénétré tous les milieux sociaux, car il y a également un nouveau système marchand qui le rend accessible par le biais des ventes privées, du seconde main et des outlets. Environ 35% des produits de luxe sont achetés à prix réduit. Il faut aussi se conformer à de nouvelles lois environnementales européennes qui empêchent les marques de brûler ou de détruire les invendus qu'il faut écouler. Les réseaux sociaux ont-ils amplifié cet attrait du luxe? Oui. Les créateurs de contenu ont permis de rendre visibles les défilés de mode et les modes de vie des ultra-riches. Ils vont livrer des expertises sur les tendances, les vêtements, les textiles, l'histoire des maisons de haute couture. Il y a un vrai savoir qui est diffusé par les créateurs de contenu. Les gens construisent ainsi une connaissance des marques et des produits qui les éduquent au luxe. Pourquoi le luxe est-il omniprésent? Le luxe a une obsession, celle de renouveler ses clients. Dans quelques années, on prévoit qu'un quart ou un tiers des clients du luxe auront de 18 à 35 ans. Il faut donc aller chercher les clients là où ils se trouvent. Les marques s'implantent dans des domaines qui n'étaient pas les leurs, par exemple dans le sport, le soccer, les séries, le cinéma, l'art contemporain, dans le but d'avoir un discours global et de vous attirer vers les produits. Est-ce qu'il y a une conscience écologique? Il y a de plus en plus de réglementations environnementales qui vont venir contraindre la production, et c'est pour cela que certaines marques investissent dans d'autres domaines. Depuis 2023, le marché est stimulé par des expériences de luxe via le tourisme de luxe, l'hôtellerie, la gastronomie. Le luxe a beaucoup investi dans sa communication. Pour montrer à quel point il se conformait aux réglementations et adoptait une politique RSE, responsabilité sociale des entreprises. Il met en avant le fait que le luxe est durable en utilisant des matériaux de qualité, mais il y a une contradiction, car le luxe participe à la tyrannie de la mode avec le renouvellement des collections. Un luxe écologique sortirait de cette tyrannie du renouvellement. Les actionnaires des grands groupes de luxe souhaitent un retour sur investissement, ce qui contribue à accélérer la production, ce qui est le fondement du capitalisme. Et les consommateurs du luxe? Vous trouverez des consommateurs qui vont s'orienter vers des biens d'occasion, mais quand on regarde l'empreinte environnementale des ultra-riches, on voit bien que, non seulement, leur consommation énergétique est supérieure, mais qu'en plus, ils ne changeront pas leur mode de vie. Les superyachts sont l'emblème de ce luxe écocide. Dans les Alpes, il y a de moins en moins de neige, ce qui a fait apparaître un nouveau luxe, déposer les skieurs en hélicoptère au sommet des montagnes. Après Dubaï et le Qatar, le luxe écocide se retrouve ailleurs. Le marché renouvelle toujours des expériences pour les ultra-riches qui sont généralement extrêmement mauvaises pour l'environnement. C'était « La fascination du luxe », un texte d'Olivia Lévy, paru le 9 avril 2026 dans La Presse.